La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de la mêlée de l'info. Trois invités encore aujourd'hui pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue Alexandra Leliette, déléguée territoriale du Modem 31. Je salue aussi Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain. Et je salue enfin la première dans cette émission d'Alexis Chanu, membre des Jeunes LR de Haute-Garonne. Bienvenue à tous les trois, merci de votre confiance. L'information qui occupe très largement la une de l'actualité depuis quelques jours, c'est le rapport « Les frères musulmans et l'islamisme politique en France » présenté au président de la République mercredi lors d'un conseil de défense qui lui était dédié. Il avait précédemment été remis au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, celui-ci l'ayant commenté en déclarant que cet entrisme islamiste est une menace pour la République et notre cohésion nationale. Dans ce document de 73 pages, commandé par le gouvernement, il est question, entre autres, de réseaux tentaculaires, d'organisations secrètes, de quartiers islamisés, relevant d'une mouvance de plus en plus implantée sur le territoire national, via différents canaux, différents réseaux, et ce, dans le but d'y instaurer la charia. Des mesures ont été proposées par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre ce phénomène, mais devant la gravité des faits rapportés, Emmanuel Macron a demandé de nouvelles propositions d'ici fin juin. Est-ce que vous avez été étonné par l'ampleur de l'entrisme des frères musulmans dans notre pays? Et quelles conclusions tirez-vous de ce rapport, sachant que des voix alertent depuis des années sur le danger que représente l'implantation et les réseaux de cette organisation en France? Et c'est Guillaume Agulot qui va s'exprimer le premier.
Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, étonné? Non. Parce que vous l'avez dit, hein, de nombreuses personnes ont évoqué ce sujet depuis très longtemps. Effectivement, au printemps républicain, ça fait des années depuis notre fondation, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, que nous alertons en permanence effectivement sur ce danger, sur cet islamisme. Alors d'ailleurs, il parle d'islamisme politique, ce rapport. C'est-à-dire que là, il y a un mot qui me paraît de trop, parce que l'islamisme, c'est politique.
L'islam politique.
Voilà, l'islamisme, c'est une traduction politique, une vision politique que certaines personnes veulent fonder sur une lecture extrêmement rigoriste et parfois adaptée à leur goût, à leur sauce de la religion musulmane. Ce sont clairement deux choses qui n'ont strictement rien à voir, qui sont totalement distinctes. Comme on dit, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, il faut toujours le rappeler. L'ampleur de cet islamisme, effectivement, il est le rapport le montre bien, il est tentaculaire, surtout il est protéiforme. Parce que pendant plusieurs années, les choses s'étaient limitées à plusieurs types d'actions, d'activités, et notamment l'école. Hein. L'école a été, j'allais dire, la cible première et principale pendant des années de cet islamisme. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Et j'ai toujours une pensée hein, pour ces deux enseignants qui ont été assassinés par cette logique islamiste, par ces terrorismes. Ces terroristes islamistes, Samuel Paty et Dominique Bernard. Ce qu'on se rend compte aussi, on le sentait un petit peu, c'est qu'après l'école, ça avait glissé au sport. Maintenant, on constate que c'est le milieu associatif également, qui est alors par des associations propres, mais aussi un entrisme qui est un petit peu évoqué à quelques lignes, un petit peu rapidement, mais aussi qui pourtant commence à exister par la volonté d'un entrisme dans des fédérations d'associations. Qui commencent elles aussi à voir arriver des demandes de labellisation ou d'intégration ou d'association ou d'adhésion d'associations qui sont clairement des associations communautaristes, très très clairement, et dont on sait évidemment ce qu'il y a derrière dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps. C'est-à-dire que nous sommes face à une machine, et je vais carrément utiliser le terme machine de guerre, qui avance d'une manière coordonnée. Ça veut dire qu'il y a une stratégie commune. Et cette manière coordonnée, ça ne veut pas forcément dire que tout avance à la même vitesse, mais par contre, tout avance dans le même sens, dans le même ordre, et avec une puissance qui est calculée. Et je crois que c'est ça que ce rapport montre véritablement, y compris à partir d'éléments parfaitement objectifs, mesurables, quantifiables. Donc, je n'ai pas été surpris par cette chose-là. En fait, si, je vais vous dire, j'ai été surpris. J'ai été surpris par le fait que le gouvernement ait décidé de le diffuser. Alors certes, c'est une version que l'on appelle expurgée, qui est en fait d'où on a extrait ce qui relève de la sécurité, de la sécurisation des enquêtes judiciaires en cours, des enquêtes de surveillance territoriale en cours, et c'est bien normal. Ça, c'est du rôle, il faut permettre effectivement aux services de renseignement de poursuivre leur travail d'une manière la plus facile et la plus facilitante possible. Par contre, le rapport a été publié d'une manière, effectivement, avec une lecture très agréable, et il me semble retrouver sur de larges parts, d'ailleurs, la plume de quelqu'un que nous avons bien connu ici dans la région, qui était directeur de cabinet du préfet pendant très très longtemps. C'était peu après les attentats, d'ailleurs, de Charlie Hebdo. Pas de Charlie Hebdo, pardon, de oui. Ozar HaTorah.
Oh, oui,
voilà, l'attentat contre l'école juive Ozar HaTorah. Et ben, c'est cette personne qui est arrivée ici avec cette mission-là. Hein. Il était directeur de cabinet de préfet, Frédéric Rose. Il a ensuite pris en charge et en place le comité interministériel de lutte contre la prévention, de lutte contre la radicalisation. Et il est aujourd'hui, il travaille aujourd'hui, comme on dit, au château, à l'Élysée, sur ces questions-là. Il me semble bien quand même avoir retrouvé sa plume et son orientation, parce que c'était déjà à l'époque ses préoccupations. Là où je suis surpris, donc, c'est le fait que ça a été publié. Parce qu'il me souvient quand même qu'il n'y a pas si longtemps, si quand même, une petite vingtaine d'années, un document, un rapport commandé par l'inspection générale de l'éducation nationale, le rapport Aubin,
oui,
avait mis en exergue, mis en évidence de la même manière, dans un périmétrage qui pourtant à l'époque était largement moins développé, exactement les mêmes logiques d'entrisme, d'interventionnisme, d'accaparation de l'espace public, de volonté de mettre l'école de la République sous coupe réglée. Et ce rapport qui était absolument limpide là aussi, à son époque, en son temps, il a fini au fond d'un tiroir.
Lettre morte.
Et il n'a jamais été diffusé. On a eu des versions plus ou moins différentes qui sont sorties au fur et à mesure. Je crois que le grand intérêt aujourd'hui, il est double. D'abord, il y a la prise de conscience. Et puis, il y a le fait de mettre ça sur la place publique, pas simplement auprès des services de police, de renseignement, de justice qui peuvent être intéressés, mais auprès de quiconque veut savoir. Pour que l'on sorte aussi peut-être un petit peu du fantasme, parce que, bien évidemment, dès que le rapport est sorti, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu, comme d'habitude, et issu toujours de la même mouvance, on s'en prend aux musulmans, c'est évidemment islamophobe, toute cette logorée complètement aujourd'hui inaudible, tellement elle ne veut plus rien dire, issue de LFI, pas que, il y a quelques satellites encore qui continuent de graviter et de grenouiller autour, mais qui continuent de vouloir systématiquement délégitimer ce qui là n'est pas un rapport d'opinion, mais bel et bien un rapport d'enquête, à partir duquel il est nécessaire effectivement, on y reviendra peut-être, de poser des rapports, des réponses fortes, précises, ciblées, et de confier aux services qui en auront la charge les moyens de mettre ça en œuvre. Il est plus que temps aujourd'hui d'y arriver. Je ne dis pas que c'est trop tard, mais je dis qu'aujourd'hui, l'urgence, le péril, il est là. Il n'est plus qu'à nos portes. Peut-être que déjà la porte est entrouverte et le pied est déjà dedans, peut-être même un petit peu plus. Et il va falloir une véritable unité nationale pour lutter contre ce qui est en train de mettre en péril notre unité nationale, les principes de notre République.
Oui, bien sûr, maintenant que ce rapport existe, qu'il a été divulgué, bien derrière, quelles propositions vont être faites pour lutter contre les faits qui ont été maintenant, comme vous l'avez dit, très clairement établis? Alexandra Leliette, je sais que vous avez bien étudié le rapport dans le détail, comme vous savez faire, alors on vous écoute. Bon, est-ce que vous avez été surprise en découvrant l'ampleur du phénomène, comme je le disais il y a quelques minutes?
Bonsoir Eric. Alors ma première surprise a été d'abord sur ce qui a entouré donc la publication de ce rapport. On avait une belle opportunité d'avoir une action républicaine, d'avoir une voix unie pour lutter contre ce véritable danger qui est l'entrisme dans notre société en France et dans le monde. Et j'ai regretté quand même ce qu'on a pu voir comme un effet de manche, un effet de médiatique entre plusieurs personnalités politiques. J'ai regretté que le rapport soit pré-divulgué à la presse avant qu'il y ait une voix commune. Et je pense que la responsabilité de nos responsables politiques, justement, c'est plutôt de s'unir pour apporter une approche et une réponse cohérente à cette situation. Sur le contenu, non, je vais pas revenir sur ce que vient de dire l'invité précédent fort brillamment. C'est vrai que nous sommes tous étonnés par la dimension et en même temps, ça fait longtemps qu'on en entend parler en France, mais aussi ailleurs. Et d'ailleurs, si ce rapport s'appelle Frères musulmans et islamisme politique en France, finalement, ça va bien au-delà parce que les experts se sont rendus dans plusieurs pays européens, ont auditionné plus de 2000 personnes et le diagnostic qui est posé est un diagnostic qui est bien au-delà d'un diagnostic français. Justement, ce diagnostic est également européen. Je pense que c'est également par l'Europe que certaines solutions pourront émerger. Plusieurs pistes sont abordées et sont présentées qui me semblent tout à fait intéressantes et d'ailleurs indispensables pour pouvoir vraiment se battre contre ces démarches. J'en vois plusieurs. On parle évidemment d'élargir le mandat du parquet européen, ce parquet européen qui existe depuis quelques années et qui, fort heureusement, voit ses compétences élargies, mais qui sont encore insuffisantes. Il est indispensable qu'on puisse également aborder les questions des délits d'ingérence et d'entrisme au sein de cette organisation. Il faut également qu'au niveau européen, il y ait un véritable mécanisme de vigilance. Parce que ce qui arrive en France, et aussi souvent par les réseaux sociaux, ça arrive en fait par tous les pays. Et les dispositions nationales qu'on pourra prendre, sont de toute façon contrecarrées par des approches transfrontalières. Donc nous devons avoir cette réponse unie. Et puis, évidemment, avoir une attention toute particulière sur les financements. Alors, nos financements publics nationaux, nos financements publics européens, je dirais même nos financements publics internationaux. Et c'est vrai qu'à noter dans ce rapport l'implication forte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères parce qu'il y a une véritable voie diplomatique. Donc, ces financements doivent être mieux contrôlés. Et puis aussi un mot sur cette communication qu'on peut en avoir au niveau européen. Alors là, on va dépasser l'échelle de l'Union européenne et je voudrais revenir sur un épisode fâcheux qu'on avait vécu en 2021 et une campagne de communication qui avait été menée au sein du Conseil de l'Europe.
Oui.
Qui m'avait particulièrement choquée.
Choquée, mais pas que vous à l'époque.
La campagne qui s'appelait My Hijab, My Choice, qui était financée en plus avec des fonds, entre autres, européen, et qui en fait avait été une campagne qui avait été menée sans une véritable lecture de l'autorité politique au sein du Conseil de l'Europe. Je me souviens de la secrétaire générale qui elle-même était plutôt une militante féministe et européenne forte et qui avait été très déstabilisée par les attaques ensuite qui avait vécu son institution. Donc c'est bien la preuve qu'on doit être vigilant, y compris chez nous. Donc ça, c'est pour moi les principaux éléments de réponse européens qu'on peut apporter. Ça n'empêche pas également des actions à mener au sein de notre territoire, au sein de notre nation. Réponse de fermeté, bien évidemment. Mais cette réponse de fermeté doit absolument être également corrélée à une réponse de justice, de mixité sociale, une réponse de rééquilibrage territorial, parce que le rapport montre bien, justement, cette entrée via les territoires. Et enfin, une politique d'émancipation pour tous, et à commencer par les femmes.
Alors, on est déjà dans les propositions, là, mais c'est bien que vous en parliez. Alors, Alexis Chanu, vous aussi, vous avez pris connaissance de ce rapport. Alors, je serais curieux de savoir ce qu'un jeune comme vous en pense, parce que le rapport Aubin, c'était 2004, je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, 2004.
Deux ans avant, il y avait eu les territoires perdus de la République, rappelons-le.
Voilà, absolument.
Et puis, depuis 20 ans, il ne s'était pas passé grand-chose. Mmh. Alors, vous, quand vous découvrez ce rapport, vous ne devez pas tomber complètement de la chaise non plus.
Je ne vais pas vous surprendre, non. Non, on n'est pas étonné, malheureusement. Mais on avait pris conscience déjà de l'ampleur de cette situation, notamment dans les régions. Je pense notamment à Laurent Wauquiez qui avait pris des dispositions pour stopper les subventions dans des institutions scolaires, notamment qui étaient en proximité avec les Frères musulmans. Non, on n'est pas étonné, parce qu'il y a de nombreuses voix, dont Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau aujourd'hui, qui disent depuis longtemps, qui alertent depuis longtemps, depuis des années, ces faits-là. Et ce rapport, finalement, confirme ce qu'on en avait déjà finalement un peu compris. finalement, on voit qu'il y a un projet d'entrisme. Il y a un projet d'entrisme politico-religieux, structuré. Il y a une ramification locale, nationale et européenne. On le voit aussi, vous l'avez très bien souligné, dans les institutions européennes qui se mettent à soutenir des initiatives comme la liberté dans le hijab, que je tiens à souligner, François-Xavier Bellamy avait notamment combattu par ses actions au Parlement européen. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'avec ce rapport, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc là, la seule solution, ce qu'il nous reste à faire, c'est agir. Agir. On le voit que dans beaucoup de régions, beaucoup de présidents de régions ont agi déjà, ont pris des mesures fortes, mais nécessaires. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ne veulent qu'une seule, chose, c'est nous diviser. Nous diviser et accentuer la fracture déjà qu'il existe entre nous. J'ai eu la chance de parler avec l'association des jeunes marocains de Toulouse. Ils se sentent aussi concernés parce que, quelque part, ils participent finalement à cette division entre eux et ils sont acteurs de cette division et on voit que c'est les premiers concernés. Quand on leur parle, ça les touche parce qu'ils se disent on n'est pas comme eux, on est totalement différents. Et le problème qu'il y a en France, c'est que souvent, quand il y a deux, je vais être un peu dur, mais quand il y a deux abrutis, entre guillemets, qui commettent des actes horribles, eh bien, ça, ils prennent pour tout le monde, en fait.
Oui, mais toute la communauté, effectivement.
Enfin, tout le monde prend pour eux.
Le terme n'est pas heureux, communauté, mais en tout cas, les musulmans de France, effectivement.
Exactement, et ça les touche, et on le voit, et quelque part, ils détruisent des ponts, en fait. Clairement, il est nécessaire qu'on ait des ponts entre nous. Je trouve que c'est vraiment, c'est ce qui fait la France, on va pas se leurrer. Mais le problème, c'est que c'est des gens qui donnent une mauvaise image d'une certaine communauté et qui participent à la division du pays. Et je pense qu'il faut vraiment faire la distinction. Et le problème, c'est que ces gens-là participent à justement la séparation qu'il y a. Et justement, il faut faire la part des choses. Mais ce rapport est affligeant. Comme je le disais, il faut vraiment en prendre acte. Et on ne pourra plus dire qu'on ne le savait pas.
Alors, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Et vous parliez des réactions qu'il y a pu y avoir déjà émanant de certains dirigeants de parti. Alors, je citais Jean-Luc Mélenchon sur son compte X.
Quel hasard !
Cette fois-ci, l'islamophobie est franchie un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit, vous allez détruire notre pays. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on, maintenant, avec ce rapport, le déni n'est plus possible ? Eh bien, apparemment, il y en a qui ont l'air de persister.
Oui, je crois qu'on est là face à, objectivement, ce que moi j'appelle les personnes qui sont face à une situation et qui refusent de voir ce qu'elles voient. Là, on est clairement face à des personnes qui refusent de voir ce qu'elles voient. Ça va même un petit peu plus loin. Clairement, le rapport, en plus il le dit dès sa page de titre, on n'a pas besoin d'aller dans l'introduction, clairement ce rapport parle d'une structuration qui s'appelle les frères musulmans, d'une idée, qui est une idéologie politique. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Luc Mélenchon ? Il nous dit que c'est l'islamophobie, c'est-à-dire on s'en prend à tous les musulmans. Pardon, mais qui fait l'amalgame ?
J'allais justement vous le dire.
Qui est en train de faire l'amalgame ?
Exactement.
Ceux qui, d'ailleurs, en permanence, sont en train de nous reprocher, de reprocher à tous les autres, ou ceux qui, évidemment, ne pensent pas comme eux, donc sont mécaniquement, par principe, nature et essence, d'extrême droite, parce qu'ils seraient dans l'amalgame. En réalité, des messages comme cela montrent bien que c'est l'amalgame. Et le cas que vous évoquiez pour les étudiants marocains de Toulouse montre bien que nous avons aujourd'hui une immense difficulté. On parlait de faire des ponts, et encore faut-il qu'à l'issue des ponts, on ouvre les barrières. Parce que on est aujourd'hui dans une situation dans ce pays où on a, d'un côté, les frères musulmans et cette idéologie frériste qui explique « nous sommes les seuls légitimes à représenter les musulmans ». Et de l'autre côté, des discours idéologiques d'extrême droite et parfois de droite extrême qui nous disent que l'islam est incompatible avec la République. Ce que je ne crois absolument pas. Je suis convaincu que l'islamisme n'est pas compatible avec la République, ce qui, encore une fois, n'est pas du tout la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a au milieu ? Eh bien, en fait, on a l'immense majorité que, oui, disons le mot, de la communauté musulmane qui se retrouve écartelé dans ce que je vais appeler une sorte de conflit de loyauté, où en clair on est en train de leur dire « vous devez choisir entre ce qu'est votre identité, ce qu'est votre culture, ce qu'est votre religion, ce qu'est votre âme collective ». J'adore cette version là de Victor Hugo qui parlait de l'âme collective. On vous demande de choisir entre ce qu'est votre âme collective et la République. Parce que d'un côté, comme de l'autre, des frères musulmans comme de l'extrême droite ou de la droite extrême, on nous explique, il nous est expliqué, qu'en réalité, on ne peut pas être l'un et l'autre. Dans les deux cas, ce sont des amalgames. Dans les deux cas, ce sont des amalgames qu'il nous faut impérativement combattre. Parce que justement, tant que nous n'aurons pas clairement posé l'équation, c'est-à-dire nous, tant que nous n'aurons pas clairement pointé qu'il ne s'agit évidemment pas de s'en prendre aux musulmans, quoi qu'en disent Jean-Luc Mélenchon et consorts, mais qu'il faut bien s'en prendre à un projet politique séparatiste dont l'objectif est la mise à mort de notre République, dont nos compatriotes et nos concitoyens de culture, de confession et de religion musulmane, au sein de laquelle ils ont absolument toute leur place, et sans lesquelles, eh bien, la France ne serait pas tout à fait la France et ne pourrait pas être la France.
Alexandra Lelièt, là, sur ce risque de l'amalgame entre frères musulmans et les musulmans de France.
Alors, je partage évidemment cette crainte et je dénonce ces dérives et ces outrances et ces amalgames qui ont pu être faits tant du côté de l'extrême gauche, mais aussi du côté d'une droite dure extrême qui a cherché aussi à utiliser et instrumentaliser ce rapport. Je tiens également à rappeler que les premières victimes, les premières cibles des frères musulmans, ce sont les jeunes musulmans. Les premières victimes de cette stratégie, ce sont eux. Ce sont eux qu'on cherche à isoler. Ce sont eux qui sont vraiment l'objet de ces démarches et de ces stratégies. Et donc derrière, il ne faut pas oublier que lutter contre l'entrisme, c'est aussi aider beaucoup de papas et de mamans de confession musulmane à savoir qu'ils ne sont pas seuls, parce que derrière, vous avez de nombreux parents qui sont totalement démunis face à cet entrisme qui est institutionnel, mais qui est également dans les réseaux et qui infuse dans les jeunes cerveaux de notre jeunesse, qui est une jeunesse française. Quand on a des jeunes qui sont enrôlés via leur club de foot ou de basket, quand on a des jeunes filles qui pensent que c'est cool de porter le voile, ça devient quasiment un élément émancipateur, alors que c'en est évidemment tout l'inverse, ben ce sont des familles derrière qui sont en première ligne. Donc il faut rappeler que l'objectif premier, c'est de sauver cette jeunesse, et c'est pour ce faire que nous devons tous, responsables, citoyens, personnes de laïques, personnes religieuses, personnes, quelles que soient nos origines, que nous combattions ensemble ces dérives pour l'intérêt collectif et pour une société qui soit capable de vivre ensemble.
Est-ce qu'il faut aussi que des représentants de la communauté musulmane, je reprends le terme de Guillaume Agulot, en France, fassent entendre leur voix, qu'on les entende un peu plus? Est-ce qu'on ne les entend pas assez, justement, Alexis Chanu?
Je pense,
ou est-ce
en
que
tout
c'est
cas,
trop leur demander?
Dans tous les cas, c'est un sentiment. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut le constater tous les trois autour de cette table, on les entend très très peu. Très très peu. Des fois, il y en a sur différentes chaînes de télé, mais c'est très rare et souvent on ne le retient pas. Alors qu'on devrait mettre en lumière ces gens-là qui se battent, parce que c'est un vrai combat qu'on est en train de vivre. C'est un combat d'identité aussi.
Bah, Guillaume Agulot a bien décrit le piège dans lequel il
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame, justement. Critiquer une idéologie, ce n'est pas critiquer une religion. Et c'est vrai qu'on attend des voix musulmanes pour dénoncer sans ambiguïté l'entrisme islamiste que profèrent les frères musulmans. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que je suis persuadé qu'il y a des pressions, notamment dans leur communauté, et c'est ce qui est le plus grave, je pense. Mais encore une fois, je le dis, c'est un vrai combat politique, un combat culturel, et vraiment un combat républicain que nous allons devoir commencer et que nous commençons dès maintenant.
Alors, je vais juste donner quelques chiffres, parce qu'on... dans le
juste
rapport,
un point par rapport à ces responsables musulmans. On entend quand même l'imam Chalgoumi,
Oui.
Qui est l'imam de Drancy.
Depuis longtemps.
Qui est,
depuis longtemps.
Et depuis très longtemps, et qui vit sous protection policière.
Et qui est sous protection, j'allais préciser. Il est sous
protection. Menace de mort permanente, évidemment. On entend aussi Tarek Oubrou, qui n'a pas forcément été toujours très, très clair, mais qui, depuis plusieurs années, a pris ses responsabilités.
Oui, il clarifie quand même son discours.
C'est le recteur de la mosquée de Bordeaux.
Bordeaux.
C'est un peu plus compliqué, objectivement, ce qui concerne le recteur de la mosquée de Paris. Où on aimerait bien en voir. Et puis alors, par contre, force est de constater que les différents recteurs des différentes mosquées de Toulouse, ben c'est un petit peu dommage de ne pas les... On peut les voir de temps en temps à certaines manifestations, mais prendre la parole publiquement en tant qu'eux, moi, je n'ai, sur ces sujets-là, moi, je n'ai pas le souvenir. Et ce sont des voix, effectivement, qui manquent aujourd'hui, y compris auprès, vous l'avez parfaitement bien dit, auprès de ces familles musulmanes qui se retrouvent totalement
désemparés,
c'est exactement ça,
et qui
par
se
rapport
sont abandonnés,
à la dérive et à l'abandon et à la et à l'emprise que subissent leurs propres enfants.
Oui. Exactement, comme vous l'avez très bien souligné, c'est ça, c'est les premiers concernés en plus. Donc et puis quand on voit les chiffres que vous allez énoncer, c'est vrai que le constat est assez alarmant, et d'où la nécessité de prendre acte et d'aller toujours plus loin.
Oui, alors il y a 139 lieux de culte concernés, plus 68 qui sont considérés comme proches de la Fédération des Frères Musulmans, répartis sur 55 départements. Tout de même, il y a 55 départements qui sont touchés, entre guillemets. Et puis, ça concerne enfin, la fréquentation globale, totale de ces mosquées affiliées ou proches de la mouvance des Frères Musulmans. Eh bien, c'est en moyenne 91 000 fidèles chaque vendredi. Voilà, donc c'est pas rien, effectivement. Alors, les propositions, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction des frères musulmans en France? Je rappelle que dans de nombreux pays arabes, les frères musulmans sont interdits. Égypte, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, la Jordanie depuis le 23 avril. Donc, tout ça pour dire que ben, c'est facile de ne pas faire l'amalgame, puisque dans ces pays-là, ils sont interdits. Guillaume Agulot.
On a un outil législatif adopté le 24 août 2021 qui s'appelle la loi confortant les respects des principes de la République, que les personnes ont appelé la loi séparatisme parce que c'était plus facile à retenir comme ça, loi confortant les respects des principes de la République, dans laquelle il y a tous les dispositifs législatifs souhaitables pour contrôler, limiter, interdire toutes ces structures. Parce que quand on dit interdire les frères musulmans, concrètement, ça ne veut pas dire j'interdis une nébuleuse, les frères musulmans. Ça veut dire qu'il va falloir interdire, déclasser, déclassifier, déconventionner, limiter, supprimer, suspendre, etc., des écoles, des associations, parce que toutes les associations en France, lorsqu'elles rentrent en contact avec une quelconque administration pour une demande de subvention, pour une demande d'autorisation d'occupation de lieu, etc., etc., sont tenues de signer le contrat d'engagement républicain. C'est 7 points, le contrat d'engagement républicain. Je peux vous dire que sur l'intégralité des associations que je connais, qui sont ici dans la région et qui sont affiliées aux frères musulmans, rien ne va. Sur les 7 points, rien ne va. Moi, ce que j'espère, c'est que, en application de ce rapport, les services compétents, notamment la préfecture, se saisissent des éléments qui sont posés dans ce rapport, prennent les contrats d'engagement républicain et constatent si, oui ou non, telle association, telle structure, telle école, telle, etc., a, oui ou non, respecté tout ou partie des 7 points. Et vous allez voir que la réponse, elle va être très rapide. Et à partir du moment où le contrat d'engagement républicain n'est pas respecté, il devient caduque. Un contrat, c'est opposable en justice. Et donc, ça veut dire fin des subventions et remboursement des subventions déjà versées. Il faut aussi le rappeler.
Rétroactif, oui.
Donc, je suis en train de dire que, déjà, en ce qui concerne la structuration actuelle, l'outil, on l'a. 24 août 2021, l'outil, on l'a. La volonté possible. Il y a cette publication qui, quand même, nous donne un indicateur. Est-ce que ça suffit? Non. Parce que vous l'avez bien dit, la puissance des réseaux est telle. Et là, il va falloir effectivement aller chercher plus loin, plus haut, plus ailleurs. Il va falloir chercher en Europe, sachant qu'en Europe, on a une situation qui est très disparate. Je peux vous dire qu'il y a des pays aujourd'hui en Europe, alors pas forcément que dans l'Union européenne d'ailleurs, mais puisque le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande rêverait de pouvoir avoir la capacité de produire un rapport tel quel. Je vous dis que la Belgique, ils sont en admiration devant le fait que nous ayons pu produire un tel rapport, parce que les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là dans ces pays-là sont menacés de mort et ne reçoivent pas de protection de la part des autorités, à la demande même ils ne sont pas protégés parce que les autorités musulmanes ont demandé à ce qu'elles ne le soient pas. Enfin, je crois qu'il faut qu'on prenne quand même la mesure de la situation. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans une problématique européenne. Et vous avez parfaitement raison. Il va falloir de toute manière, d'une manière ou d'une autre, réguler les réseaux sociaux. Ça, c'est clair et net. Si la France prend la mesure, ça ne marchera jamais. Si c'est l'Union européenne qui prend la mesure et qui, allez, disons les choses, dit à TikTok, vous imposez l'impossibilité d'accès à votre réseau avant 15 ans, par exemple, ou alors on vous supprime le réseau sur l'intégralité du territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire vous n'avez plus accès au premier marché économique du monde. Soyons clairs. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont comprendre d'autre, TikTok ? C'est la seule chose qui les intéresse.
C'est souvent l'argent, effectivement.
Mais évidemment. Et c'est ça, on n'a pas immédiatement, c'est-à-dire d'une manière coordonnée, en même temps qu'une réponse au niveau européen. Et quand je dis européen, c'est deux choses. La Commission, oui. Le Parlement. Il va peut-être aussi falloir, ça c'est pas le sujet du débat ce soir, qu'on se rende compte, qu'on se rappelle que la légitimité à l'échelle européenne, c'est le Parlement et pas la Commission. Le Parlement, parce que le Parlement représente les citoyens. La Commission représente les États. C'est pas tout à fait la même chose. Et il faut impérativement que le Parlement reprenne sa part là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'il faut couper les ailes à Ursula von der Leyen, mais pas loin. Pour remettre chacun à sa place et permettre au Parlement de prendre des mesures qui ne pourront être que des mesures coordonnées. Vous avez parfaitement raison. Au niveau européen, je souhaite bon courage à notre ministre des Affaires européennes, oui, parce que je pense qu'il va avoir un agenda extrêmement chargé.
Alexandra Leliette, vous, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Alors, c'est vrai que j'ai pu développer déjà précédemment, oui, donc les différentes pistes qui sont à envisager au niveau européen. Je ne vais pas revenir sur ce point. Je voudrais simplement rebondir sur ce que vient de dire l'invité précédent sur les différentes dispositions. Il faut aussi être vigilant dans les mesures que nous prenons, de ne pas entrer dans une approche qui soit trop caricaturale non plus. Je ne dis pas que vous l'avez été loin de ça. Mais simplement se rappeler que sur toute la mise en œuvre des dispositions autour de la loi de 2021, donc sur les valeurs de la République, et vous parliez du contrat d'engagement républicain pour les associations 1901, ça a fait l'objet de nombreuses discussions avec le monde associatif. Le mouvement associatif avait été très mobilisé, il était très hostile d'ailleurs, parce qu'il voyait une enfreinte et, contre la liberté d'association. Oui. Donc ça a fait l'objet de très nombreuses discussions. Je tiens à saluer le travail des services de l'État qui gèrent la vie associative, les services de la GEBVA, qui ont beaucoup travaillé, dialogué avec ces associations pour aboutir à une position équilibrée. Et bien sûr, la préservation de nos principes, ça ne veut pas dire l'annihilation de toute influence religieuse. Évidemment, les scouts, que ce soit les scouts musulmans ou les scouts que nous avons ici, sont des associations 1901 qui ont une influence, qui ont des origines religieuses. Et là, bien évidemment, il faut les préserver. Et ça, on doit être très, très attentif à garder ce point d'équilibre.
Ou une radio associative qui s'appellerait le Ré Radio Présence, par exemple.
C'est un exemple parmi d'autres.
Par exemple, sur les réponses, donc évidemment réponses coordonnées, réponses au niveau européen, saluer de nombreuses résolutions qui ont pu être adoptées au sein du Parlement européen, un travail qui est conduit et qui est à conduire main dans la main avec la Commission et le Conseil, et un dialogue aussi à avoir, parce que c'est vrai que j'ai longuement travaillé à Bruxelles dans les affaires européennes, et notre approche française de la laïcité n'est pas bien comprise par nos partenaires européens.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et quand on parle...
Même en France, elle n'est pas toujours bien comprise.
Déjà, en France, elle n'est pas bien comprise. Mais au niveau européen, c'est vrai qu'on doit être vigilant parler avec une langue commune et de ne pas imposer notre modèle républicain français. Donc, sur les réponses, donc, comme je vous disais, réponse française de fermeté et de mixité et de rééquilibrage territorial, réponse européenne surtout de transparence, parce que la transparence restera la seule clé de notre démocratie, et une réponse internationale, donc de surveillance des financements internationaux, parce qu'on sait que ce sont des millions, voire des milliards d'euros qui sont brassés.
Alexis Chanu, avez-vous réfléchi à d'autres propositions que celles qui ont déjà été faites ?
Comme je le disais, ça va être un combat politique, culturel, mais avant tout un combat républicain. Alors effectivement, il y a plusieurs pistes qu'on pourrait étudier, notamment cartographier les réseaux, quels qu'ils soient, vous avez raison, notamment sur Internet, et leur lien avec les différentes associations.
Ah oui, il y a une chose aussi, on ne l'a pas dit, mais on parle des Frères musulmans, il y a peut-être d'autres associations un peu de même type.
Absolument.
Certaines venant de Turquie, par exemple, qui mériteraient qu'on y regarde aussi d'un peu plus près.
On voit que finalement, le gros problème qu'il y a, c'est, au-delà des Frères musulmans, c'est vraiment l'idéologie. Parce que peut-être que demain, on arrivera à sanctionner sévèrement les Frères musulmans, ce qui est dangereux, c'est l'idéologie qui reste. La question, c'est comment on va faire pour pouvoir, justement, entre guillemets, l'éradiquer. Plusieurs mesures, donc je dis cartographier donc, les réseaux, contrôler les financements, ce qu'a fait notamment Laurent Wauquiez dans sa région d'Auvergne-Rhône-Alpes, former les élus locaux aussi à repérer l'entrisme, parce que c'est eux qui sont finalement en première ligne. Et c'est eux qui sont souvent victimes aussi des Frères musulmans.
De pression, de menaces.
Bien sûr, également, et vous l'avez très bien dit, notamment en Belgique, je vois que ça commence à arriver, et ils se font de plus en plus nombreux, mais ça fait partie de leur stratégie. Infiltrer nos institutions pour pouvoir un peu devenir légitime aux yeux du monde. Ce qu'ils cherchent, c'est la légitimité, finalement. Et c'est dangereux, parce que beaucoup de nos compatriotes musulmans peuvent tomber dans ce piège qui est irréversible, en réalité. Donc il faudra faire très attention. Donc, former les élus locaux, conditionner les subventions aussi au respect de la laïcité. Vous l'avez très bien dit, la laïcité, elle doit être comprise de tous. Le problème qu'il y a, c'est que on fait un peu la laïcité à notre sauce, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on l'adapte à chacun de nos envies, et peut-être qu'il manque une petite clarification. Je crois que quand je parle avec beaucoup de personnes, notamment d'un point de vue de laïcité, bah, ils disent, oui, on peut, par exemple pour le voile, on peut le porter, non, on ne peut pas. Et en fait, on voit qu'il y a deux discours, et au final, quelle est la vérité ? Oui. Là, la question, si quelqu'un l'a, il faudrait qu'il la dise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doute et qui donc ne savent pas exactement. Peut-être une clarification peut être intéressante. Ensuite, l'interdire, ça va être compliqué en réalité, mais je pense que assécher vraiment à la racine, méthodiquement, tout leur relais, vous avez dit, c'est tentaculaire. Si on peut assécher tout ça, je pense qu'in fine, on peut réussir à combattre les Frères musulmans, et c'est peut-être, pourquoi pas, une victoire prochaine.
Guillaume Agulot me rappelait avant le début de cette émission que nous célébrerons à la fin de l'année les 120 ans de la séparation de l'Église et de l'État, enfin la loi, ce qu'on appelle...
La loi de séparation des églises, c'est-à-dire des cultes et de l'État.
Des églises, des cultes et de l'État. Donc on fera peut-être une émission spéciale là-dessus qui nous permettra de faire les rappels que vous suggérez, Alexis Chanu. Je signale que l'intégralité du rapport dont nous parlons est désormais accessible à tous, donc vous pouvez aller en prendre connaissance dans le détail. On attend maintenant les nouvelles propositions du gouvernement pour lutter contre l'implantation des Frères musulmans dans notre pays. Pause maintenant dans cette émission avant de nous retrouver dans une vingtaine de secondes pour revenir sur un autre événement à la une de l'actualité cette semaine. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne. Je suis toujours en compagnie d'Alexandra Leliette, Guillaume Agulot et Alexis Chanu, à qui je propose maintenant de revenir sur l'événement politique du week-end passé, l'élection de Bruno Retailleau à la présidence du parti Les Républicains. Si sa victoire était annoncée, son ampleur, puisqu'il a recueilli près de 75% des voix des militants face à Laurent Wauquiez, a pu surprendre, y compris parmi les soutiens de l'actuel ministre de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, elle est sans appel et faite incontestablement de Bruno Retailleau, le nouvel homme fort de la droite dite républicaine. Quel signe y voyez-vous et quelles conséquences pourrait-elle avoir en vue de la prochaine campagne présidentielle de 2027? Alexis Chanu, vous devez avoir beaucoup à dire sur cette élection, d'autant plus que je crois savoir que vous avez plutôt soutenu Bruno Retailleau.
Ce n'est pas un secret apparemment.
C'est pour ça que je me permets de le révéler.
Vous avez raison. Non, oui, satisfait évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'on est une seule et même famille. En réalité, sur le fond, très peu les distinguer. La question qui était centrale lors de cette élection, c'était l'incarnation.
L'homme et le style.
Oui, et on voit que 74%, je pense que l'homme et le style a été choisi. Maintenant, la clarification a été faite, c'est un fait. Les militants, au fond, ce qu'ils veulent, c'est une droite ferme, une droite enracinée et qui s'assume. Mais qui est aussi nuancée, et je pense que Bruno Retailleau a toutes ses qualités, c'est un signal fort. En réalité, 74%, c'est à peu près 72 000 votants sur 98 000 votants total sur le scrutin. Donc voilà, c'est une droite claire, enracinée, d'autorité aussi. C'est ce qu'incarne finalement Bruno Retailleau. Je pense honnêtement que il a mis un terme aux ambitions personnelles de chacun en réalité. Je pense qu'il a permis de tous s'unir dans notre famille politique autour d'un seul et même projet. Et je pense que c'est vraiment vital dans une période où on était tous un peu, c'était un peu, comme on disait, connu pour la guerre des chefs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'unir, dépasser ça. Pas oublier qu'on parle de 2027, c'est vrai, c'est important, mais avant 2027, il y a 2026. Et je pense que 2027 sera conditionné à 2026, justement. Donc,
vous parlez des municipales pour ceux qui n'auraient pas fait le lien.
Exactement, donc voilà, c'est un retour aux fondamentaux sur la sécurité, sur l'identité. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut devenir une droite qui s'incarne. Et l'avantage, c'est qu'on voit qu'on est dangereux. On voit qu'on arrive à, entre guillemets, piocher sur l'électorat d'Emmanuel Macron et sur l'électorat de Marine Le Pen et de Éric Zemmour. Bon, à voir comment ça se profile dans les mois prochains, mais il y aura beaucoup de changements pour notre parti et je pense que c'était nécessaire. Et c'était nécessaire, il faut, encore une fois, j'appelle à l'unité vraiment, pour être tous acteurs de ce nouveau parti populaire et patriote.
Alexandra Leliette, vous avez dû suivre quand même ces élections de près, même si ce n'est pas votre parti, mais toujours est-il que Bruno Retailleau est l'actuel ministre de l'Intérieur de François Bayrou. Donc, je suppose que vous avez des commentaires à faire sur sa large élection à la présidence du Parti Les Républicains.
Oui, derrière cette élection, je vois plusieurs points à relever, plusieurs bonnes nouvelles y compris. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que c'est enfin la fin de ce feuilleton qui a duré longtemps, qui nous a quand même bien pollué les débats, qui tous les jours arrivait avec cette nouvelle phrase choc. On ne reviendra pas sur celle de l'expulsion des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon et chacun y allait de sa surenchère populiste. Et là, ce feuilleton terminé, on va enfin pouvoir reprendre les choses sérieuses. Alors en plus, il y a eu quelques conséquences annexes aussi à ce feuilleton qui durait. Je pense notamment à un certain absentéisme sur cette période de campagne interne de députés LR, qui a même valu certains textes de ne pas pouvoir être adoptés. Je pense notamment à un texte sur la simplification. Autre bonne nouvelle, c'est aussi la nouvelle d'une validation du choix des militants LR de ce choix de Bruno Retailleau, de rejoindre l'équipe de François Bayrou, ce gouvernement qui est multiple, ce gouvernement qui est un gouvernement qui a pris son courage à pleine main pour répondre ensemble aux grands enjeux et défis qui se posent à la France. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas remis, contrairement à Laurent Wauquiez, la participation de l'air au gouvernement. Et donc, c'est une validation sur un mouvement plus large. C'est que oui, on peut travailler ensemble. Oui, nous pouvons avoir une multiplicité dans les décideurs. Et pour moi, je vois aussi un bon signal pour un autre sujet qui nous tient évidemment à cœur, comme vous le savez, au Modem. C'est celui donc de la proportionnelle. Ensuite, sur la présidentielle, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Sur notre position, nous, Modem, vis-à-vis de cette élection, c'est que nous resterons attentifs. Bruno Retailleau, comme vous l'avez dit, reste l'incarnation d'une droite dure et ferme. et qui est également une droite qui peut conduire quelques politiques qui me mettent mal à l'aise. Je reviendrai sur notamment cette déclaration qu'avait eue Bruno Retailleau dans le journal du dimanche en septembre dernier, disant « l'état de droit, ce n'est pas intangible ni sacré ». Eh bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le président, si, l'état de droit est une valeur intangible et sacrée.
Guillaume Aguiléau, alors c'est pas du tout votre mouvance pour le coup.
Pas du tout.
Mais je sais que vous êtes un observateur avisé.
Aiguisé.
Aiguisé de la vie politique française. Donc vous avez forcément suivi le résultat de cette élection et le fait qu'il soit très net, sans appel, comme je le disais, est quand même un signal très fort, il me semble.
Bon, vous avez parfaitement raison. Là, c'est un plébiscite. Hein. C'est clairement, je ne sais plus quel est le qualificatif aujourd'hui qu'il faut retenir. Tout le monde avait bien senti qu'effectivement la dynamique, elle était du côté de Bruno Retailleau. À ce point-là, je pense que lui-même a été le premier.
Oui, parce que je crois qu'ils escomptaient au mieux un score de deux tiers, un tiers, mais pas trois quarts, un quart.
Eh bien, en fait, dans ce score, j'y vois. Pourtant, vous l'avez bien rappelé. Hein, ça n'est pas du tout mes orientations. Ce ne sont pas du tout mes orientations. Mais j'y vois quand même une excellente nouvelle à cette élection de Bruno Retailleau. J'y vois une excellente nouvelle pour l'ensemble
de l'échiquier politique,
parce que ça veut dire que c'est bien plus qu'une prime à l'action. En réalité, ce qui a été aussi plébiscité, vous l'avez raison de le dire, c'est que ce qui a été plébiscité par les électeurs LR, c'est qu'on est face... Là, en l'occurrence, on avait le choix entre deux hommes politiques. L'un qui a, pardon l'expression, décidé de se relever les manches et d'y aller. Et l'autre qui a dit « Non, moi je suis dans l'opposition de toute manière parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils, moi je serai meilleur quand je serai au pouvoir, donnez-moi le pouvoir, etc. etc. » C'est-à-dire ce que tout le monde dit un petit peu partout. Et bien là, on a la preuve que quelqu'un qui a pris un risque, c'est un vrai risque, et qui a pris un risque pas simplement pour être sur la photo sur le perron de l'Élysée, qui a pris un risque dans un ministère régalien, vous avez bien raison qu'il faut lui rappeler.
Un ministère exposé, en plus.
Ministère régalien, il y a quand même toujours la séparation des pouvoirs. Bon, c'est peut-être qu'il est allé plus rapidement au ministère de l'Intérieur que devant une fac de droit, mais peut-être que les choses peuvent s'améliorer. Je suis confiant toujours sur la capacité des personnes à progresser dans la connaissance. N'empêche que on a une personne qui a décidé d'y aller face à une personne qui a décidé de ne pas y aller. Et ce qui est largement plébiscité, et je crois que ça, c'est une leçon qui doit être retenue au-delà, simplement, de LR, même si déjà, LR, quoi, 100 000 adhérents ?
121 000.
Voilà. Je pense qu'il y a de nombreux partis politiques, y compris du côté de mon échiquier, hein, qui feraient peut-être un peu mieux d'arrêter de se regarder les uns les autres, de se désinguer les uns les autres, et de commencer à regarder quelles sont réellement les cartes d'adhérents. Parce que si vous me dites 121 000, ça veut dire que très concrètement, il y en a 80 000. Et très concrètement, ça veut dire qu'il y a une force de frappe militante qui doit dépasser les 50 000. À peu près.
Un ordre d'idée, en votant, c'était 98 000.
Voilà. Bon. Ça dit des choses. Vraiment, ça dit des choses. C'est-à-dire sur une structuration qui est en train de se remettre en ordre de marche. Aussi. Bon. Après, moi, ce que vous avez dit, c'est très bien, c'est l'unité, vous appelez à l'unité, au moins aujourd'hui la ligne est claire et on va pouvoir continuer. C'est là où je vais peut-être émettre quelques petits bémols, quelques petites réserves. C'est-à-dire que si c'est effectivement une droite claire et dure, ce qu'il est, son style, ses mots, ses paroles, ça a été rappelé, si aujourd'hui, maintenant, il l'incarne en tant que président du parti, bon courage pour les prochains conseils des ministres. Parce que ça veut dire qu'on va être, on va avoir
posée,
un président de parti politique qui prétend et qui nous l'a dit, et il n'y a pas de raison de penser qu'il ne le fera pas, qui nous a dit qu'il allait porter très clairement une ligne qui, de fait, va devenir frontale. Parce que la difficulté aujourd'hui de Bruno Retailleau, en fait, elle est multiple. C'est-à-dire qu'elle est unique, mais elle se décline en plusieurs choses. La première des choses, c'est quel choix stratégique je fais. Avec qui est-ce que je m'allie? Est-ce que je reste juste dans mon périmètre et j'essaye de glaner par capillarité? Est-ce que je m'allie avec un centre droit? Est-ce que je m'allie avec une droite plus dure? Aujourd'hui, Bruno Retailleau ne peut plus faire celui qui dit « on verra ça après ». Aujourd'hui, ça y est, c'est vu, c'est fait, c'est vous, bravo, félicitations. Quelle est votre orientation idéologique? Ça, c'est un vrai. Et parce que tout ça va conditionner la suite. Tout ça va conditionner.
Et
le
il
reste.
Est attendu là-dessus, je pense.
Et il est évidemment attendu là-dessus.
Il est attendu là-dessus par ceux qui ont voté pour
lui. Parce que s'il décide d'aller côté de la droite extrême, comme vous l'avez dit, hein, les grappillés un petit peu à droite à gauche, sa position à la place au Beauvau, je pense qu'il est temps qu'il commande 2-3 cartons et un ou deux camions de déménagement, ça peut être utile rapidement. S'il décide d'aller vers une droite plus modérée, ça veut dire qu'auquel cas, tout ce qu'il nous a dit sur un discours clair, net et précis d'une droite de retour, c'est du vent. Et c'est là où arrive l'autre problème. C'est qu'aujourd'hui, la personne, enfin, ce qui a été plébiscité, c'est pas du tout LR. Faut pas se la raconter. Ce qui a été plébiscité, c'est un individu qui a un poste médiatique exposé dans lequel il joue très bien son rôle. Très bien son rôle, vraiment, sincèrement. Mais c'est pas du tout un parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voix se sont portées sur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et pas Bruno Retailleau, porteur d'une idéologie politique. Et ce décalage, arriver à transposer ce qu'est ce capital qu'il a de bonne opinion, de sympathie, etc., sur justement une idéologie politique, peut-être que là, effectivement, vous l'avez dit, et je vous rejoins clairement là-dessus, on n'est vraiment pas encore en 2027.
Ah non, clairement pas.
Mais alors, de quel espace politique il dispose, selon vous, Bruno Retailleau, hein? Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher un peu du côté du centre macroniste Modem? Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher en même temps? Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, du côté du RN ou de Reconquête? C'est un peu un travail qui, aujourd'hui, vu de l'extérieur, peut paraître un travail d'équilibriste extrêmement incertain.
Je pense que d'abord, on doit se chercher nous-mêmes, déjà. D'abord, parce qu'on oublie quand même qu'on a eu des scores relativement... faible lors des dernières élections. Donc déjà, essayer de se retrouver nous-mêmes. Une fois que ce sera le cas, essayer de faire venir les autres, pas d'aller vers les autres. Attention, nuance. Parce que beaucoup nous ont dit, quand Éric Ciotti est parti, nous ont fait le reproche de ne pas le suivre. On ne le suit pas parce qu'on a une ligne claire aussi. Il faut rester indépendant, rester autonome. Dire, par exemple, qu'on pourrait travailler avec Sarah Knafaud. Travailler est une chose, s'allier en est une autre. Je pense honnêtement qu'il faut faire justement distinction. C'est pour ça que je pense...
Le PS a tenu le même discours avec LFI. Regardez dans quel état ils sont.
Regardez dans l'état où on est. Est-ce qu'on nous associe au RN? Non. Ça montre que quelque part, il y a une différence. Il y a une différence. Aujourd'hui, on le voit et je pense qu'on peut être une alternative forte et rassembler aussi tous nos compatriotes de droite. Je pense que c'est une nécessité parce que on va pas se leurrer. Le RN, je pense, ne gagnera jamais une élection présidentielle. Honnêtement, elle sera toujours seule contre tous. Donc je pense qu'on est la seule vraie alternative. Vous nous dites pourquoi pas s'allier avec le centre droit. J'ai envie de dire, moi je suis un peu rancunier. J'ai du mal à m'allier avec des gens qui m'ont trahi. Voyez-vous, même si quelque
on
part...
On parle de qui quand on parle du centre droit?
Édouard Philippe notamment. Je pense qu'on peut ne pas s'en cacher, hein. On peut clairement y aller, hein. Édouard Philippe, dans les moments durs, il est parti. Il est allé rejoindre la Macronie. Donc, on me dit ce que
Édouard Philippe. Tous les anciens LR qui ont rejoint la Macronie, vous ne voulez pas en entendre parler. Même quelqu'un comme Le Cornu.
Qu'on me dise que Édouard Philippe est de droite, moi je pense qu'honnêtement, on a juste à aller voir dans son historique de Premier ministre de macroniste. Parce qu'il était macroniste, il est parti.
Il a créé son parti Horizon. Exactement. Mais il a été quand même pendant suffisamment longtemps.
La question, elle est là. A-t-il eu des actions de droite dans son gouvernement? La question se pose. Moi, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'honnêtement, celles et ceux qui peuvent avoir une vraie alternative, en fait, pour les prochaines échéances, je vais y arriver, c'est nous. Vraiment. Mais j'y crois parce qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique et on voit qu'on réussit à.
C'est vrai qu'il y a un sondage qui est sorti juste après l'élection de Bruno Retailleau qui montre qu'il a pris d'un seul coup 5 points. Bon, ça reste un sondage à un instant
exactement,
T.
Exactement.
C'est de 11 à 16.
Exactement.
Sondage premier tour, configuration premier tour précédent.
Vous avez raison. Et quand on voit plus précisément dans les enquêtes d'opinion, on voit que Bruno Retailleau a plus la cote qu'Edouard Philippe. C'est un signe. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Je pense que.
D'autant plus qu'il reste 2 ans.
Non, mais de là où on vient, je pense qu'on a le devoir quand même de rester assez humble, de rester sur nos gardes, et donc par conséquent de rester actif, toujours, en toutes circonstances, de se dire que c'est un combat qui arrive et qu'on doit le mener avec conviction, avec force, pour ne pas laisser sombrer notre pays, parce qu'il est question de ça demain, de la France malgré tout.
Ouais, ce que je comprends, c'est que vous pensez avoir réenclenché une dynamique et vous pensez qu'avec Bruno Retailleau, vous avez l'homme qui permet de l'incarner, je reprends votre mot.
Exactement.
Alexandra Lelièvre, je crois que je vais vous donner le mot de la fin.
Oui.
Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau a un espace, tout en étant encore aujourd'hui le ministre de l'Intérieur de François Bayrou?
Alors sur cet espace et notamment sur ces références donc à 2027, j'ai envie de dire, t'as qu'à croire. C'est vrai que cette élection ne démontre absolument pas une droitisation de la France. On l'a vu déjà par le passé, l'élection de Fillon, un proche de Retailleau, lors de l'élection interne de 2016, qui avait surpris tout le monde parce que la Vox Populi sur les sondages semblait préférer Alain Juppé plus modéré, qu'on voyait d'ailleurs tous président de la République à l'époque.
Hein. Oui, c'est vrai, pas beaucoup en tout cas le croyaient.
Et donc il y a eu ce vote interne, encore une fois, interne, de militants, de personnes encartées à jour de cotisation, qui ont voulu une incarnation de la droite plus dure, et ce qui n'a pas empêché François Fillon de se prendre une grosse déroute quelques mois après, au premier tour de la présidentielle.
Il y a une certaine affaire quand même entre-temps.
Il y a eu une certaine affaire. Mais quoi qu'il en soit, on le sait, le scrutin présidentiel français, c'est un scrutin avec un candidat qui doit être en mesure de rassembler. Et quoi qu'il en soit, nous, au Modem, nous continuerons de défendre un espace central, un espace européen, un espace réformateur, progressiste et social. Et je pense que les dirigeants politiques ne doivent pas voir cette cristallisation des positions comme une voie de sortie, parce que au contraire, c'est plutôt aller droit dans le mur, que ce soit sur une droite radicale ou sur une gauche radicale.
Et donc pour vous, quoi qu'il arrive, une alliance entre le MoDem et quelqu'un comme Bruno Retailleau, c'est absolument inenvisageable ?
Non,
même pour se rassembler au second tour, par exemple ?
Sur ces alliances, encore, c'est des alliances de projets. Quand il s'agit de l'avenir de la France, c'est vraiment un projet et des valeurs communes. Donc, j'en parlais tout à l'heure, j'aime pas le mot ligne rouge, mais il y a des points de vigie que nous aurons toujours en tête. Et certaines positions de Retailleau qui a pu remettre en cause l'aide médicale pour les sans-papiers ou encore remettre en cause l'état de droit sont pour moi des points sur lesquels il faudra beaucoup travailler et évoluer du côté de Monsieur Retailleau pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble.
En tout cas, les paris sont ouverts. On va suivre ça de près. Je pense qu'il y a des sondages qui vont sortir régulièrement maintenant pour voir si effectivement Bruno Retailleau effectue une percée dans l'opinion qui pourrait lui laisser des espoirs pour 2027. Cette 194e mêlée de l'info est terminée. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Bravo Alexis Chanu pour sa belle première dans cette émission.
Merci.
Je remercie également Coraline Kamebrak à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui. À la semaine prochaine.